Milana masua mwa mama Magi beto be kutana na libongo ya matali
Géopolitique, tout à l'heure à 17h10 TU.
RFI.
Radio France Internationale, il est 6h en temps universel, 7h à Paris. Le journal de Martin Guèze. Bonjour Martin.
Bonjour Marion, bonjour à toutes et à tous.
Adieu veaux et vaches, bonjour cochons et couvées.
Et voilà La Fontaine rhabillée et sa célèbre fable revisitée pour l'ouverture du 62e Salon International de l'Agriculture de Paris. Le premier sans les stars absolues du salon. Pas de vaches cette année dans les allées. La faute à la dermatose nodulaire. Sans vaches, le cheval sera génial, nous dira Nicolas Feldman.
Aux États-Unis, disgrâce puis retour en grâce. Les surtaxes douanières de Donald Trump font le yo-yo.
À peine retoquées, déjà réappliquées. Le président américain fixe un tarif mondial commun à 10% après avoir essuyé un revers XXL de la part de la Cour suprême. Nous appellerons Loubna Anaki à New York et nous appellerons Paul Khalife à Beyrouth au lendemain de ces bombardements israéliens d'ampleur dans l'Est et dans le Sud du Liban. Enfin, nous irons en Tunisie où la justice condamne les activistes anti-pollution et ce alors que les usines chimiques de Gabès sont toujours en activité. Et au Vietnam, voyage culinaire et introspectif avec le film Saveur d'exil où la cuisine sert de mémoire familiale. Et puis enfin, restez bien avec nous, juste après le journal. Ce sera le journal des sports, avec Babacar Diarra, le biathlète Quentin Fillon-Maillet sera à l'honneur, lui qui est désormais l'athlète français le plus médaillé de l'histoire des Jeux Olympiques.
Voilà un rendez-vous incontournable pour les petits citadins de la région parisienne. Le salon de l'agriculture ouvre aujourd'hui ses portes.
Et oui, l'occasion pour les enfants grandissant loin des campagnes de voir de plus près les poules, les moutons et surtout les vaches. L'occasion aussi pour les agriculteurs de défendre leur filière. Mais cette année, Marion, et pour la première fois de vaches, il n'y aura pas la faute à la dermatose nodulaire, une maladie qui a fortement touché les élevages français l'an dernier. Et s'il n'y a aujourd'hui plus aucun cas en France, la précaution reste de mise. Sans vaches dans les allées, il y a une place de star du salon. Allons à se faire. Nicolas Feldman nous présente les différents candidats.
Vous pouvez nous présenter ?
Alors lui, c'est Grégo Dumousseau. C'est un cheval qui fait à peu près 800 kilos, qui mesure 1,60 m. C'est des chevaux qui sont dédiés à travailler dans les vignes.
Cette année, dans le salon, pas de bovin. Est-ce que le cheval, c'est la star de cette édition ?
La star, c'est pas à nous de le dire. Après, ce sera au public, aux organisateurs. Ouais, on est dans une année qui est un peu particulière cette année. Peut-être que les chevaux sont un peu... Voilà, dans la lumière du salon.
Écartez les bras. Ah ben oui. Attends, Emile, ouvre la porte.
Ouais, elles sont agitées, là.
Ça pourrait être pire.
On voit dans le salon, il y a cette année des dromadaires, il y a des alpagas, il y a des chèvres. Vous, vous êtes venu avec votre mouton ?
Oui, un mouton bleu du Maine. Donc, il y a un concours qui est prévu pour la race jeudi matin.
Qu'est-ce qu'il faut pour décrocher la médaille d'or ?
Qu'il soit grand, épais, bien développé, pas de laine sur les pattes ou sur la tête.
Donc, il est beau, il est prêt.
On en donnera un petit coup jeudi matin avant.
Bonjour monsieur.
Bonjour.
Nicolas Salle, éleveur des vaches gascon des Pyrénées.
Les vaches, elles sont en photo cette année.
Moi, je suis frustré là. J'avais préparé un bœuf qui fait une tonne de sel là. Rapetou, il s'appelait. Il est à la maison, ce bœuf. Nous, nous sommes là, les éleveurs. Et là, il faut être encore plus persuasif pour argumenter notre savoir-faire.
Vous allez réussir.
Bien sûr, un paysan, un éleveur et quelqu'un qui s'adapte en toutes les circonstances. Et une fois de plus, on va s'adapter.
Et puis aussi, s'adapter aussi, sont des habitués des travées. Ils seront bien là, comme chaque année, le balai des personnalités politiques qui débute dès aujourd'hui. Premier bain de foule pour Emmanuel Macron, le président français qui ouvre le bal et qui devra faire face à la colère paysanne après l'interdiction des bovins et face à la menace du Mercosur, un salon d'agriculture sur lequel vous revenez juste après ce journal. Marion Cazeneuve, le chercheur Thierry Pouche sera votre invité pour parler de la situation agricole en France.
La France où entre 2 et 3 000 personnes sont attendues dans les rues de Lyon.
Pour un hommage sous haute tension et sous haute sécurité. Hommage à Quentin de Ranque, militant d'extrême droite, ancien membre de l'Action française, tué lors d'affrontements la semaine passée avec un groupe antifasciste. 7 personnes ont été mises en examen cette semaine, rassemblement auquel ne participera pas sa famille. Le patron du Rassemblement national, Jordan Bardella, a appelé également à ne pas s'y rendre. Marche à laquelle devraient prendre part en revanche des militants identitaires venus de toute la France, voire de toute l'Europe. De nombreuses voix, dont le maire de Lyon, avait demandé l'interdiction de cette marche. Elle est bien autorisée par le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez.
Aux États-Unis, des surtaxes retoquées et Donald Trump ulcéré.
Le président américain a vu rouge après ce revers essuyé face à la Cour suprême. Pourtant, une cour à majorité conservatrice et politiquement favorable au président américain. La plus haute juridiction américaine a jugé que ces surtaxes étaient illégales et auraient dû être validées par le Congrès. Donald Trump ne voit pas les choses de la même manière.
La décision de la Cour suprême sur les droits de douane est très décevante. Ils n'ont pas eu le courage de faire ce qu'il y a de mieux pour notre pays. Ils ont trahi notre Constitution. Ils sont une honte pour notre nation.
Et immédiatement après le verdict de la Cour suprême, Donald Trump a annoncé de nouvelles surtaxes mondiales à hauteur de 10%. Elles ne seront valables que durant 150 jours. Et on retrouve à New York notre correspondante Loubna Anaki. Loubna, le président républicain refuse de s'avouer vaincu au risque d'alimenter les divisions de son propre camp.
Oui, car certains élus républicains ne soutiennent pas forcément la politique commerciale de Donald Trump. Il faut savoir que d'un point de vue purement légal et constitutionnel, le pouvoir d'imposer des droits de douane revient uniquement au Congrès. Et c'est d'ailleurs ce qu'a réaffirmé hier la Cour suprême. Et si les chefs de la majorité républicaine au Sénat et à la Chambre ont tous les deux insisté sur l'efficacité des droits de douane imposés par Donald Trump, aucun ne s'est prononcé sur l'éventualité de les rétablir ou de redonner au président la possibilité de les imposer. Ils savent que le sujet divise pas mal dans leur camp. D'ailleurs, récemment, certains élus républicains se sont joints aux démocrates pour abroger les droits de douane imposés au Canada. Ce n'est donc pas une surprise si hier, certains républicains, comme Mitch McConnell par exemple, ont ouvertement salué la décision de la Cour suprême. Le sénateur estime que si la Maison-Blanche veut, je cite, « imposer des droits de douane qui vont affecter le pouvoir d'achat des Américains », il suffit de convaincre leur représentant, c'est-à-dire le Congrès. Et c'est probablement parce qu'il sait qu'il n'a pas le soutien de sa majorité que Donald Trump évite pour le moment de demander au Congrès de le soutenir et préfère user d'autres lois qui lui permettent d'imposer des droits de douane temporaires.
Merci Loubna Anaki, correspondante de RFI aux États-Unis. Au Venezuela, la loi d'amnistie votée et promulguée par le gouvernement intérimaire est bien appliquée. La justice vient de libérer 379 prisonniers politiques. C'est ce qu'annonce le député vénézuélien qui préside la commission en charge de ce processus. Au total, un peu plus de 600 prisonniers doivent être libérés.
L'armée israélienne reprend ses bombardements sur le Liban,
qui n'avait jamais été aussi virulent depuis des mois. Et ce, malgré le cessez-le-feu établi en novembre 2024. Au moins 12 personnes ont été tuées hier. Et on est en ligne de Beyrouth avec Paul Khalife. Paul, l'armée israélienne a ciblé la plaine de la Beka dans l'est, mais aussi le sud du Liban. Parmi les victimes figurent un haut responsable du Hezbollah, deux membres du Hamas, mais aussi des femmes et des enfants.
Oui, Martin, la presse libanaise parle ce matin d'un massacre en raison du nombre de victimes, un des bilans les plus élevés depuis le cessez-le-feu conclu il y a 15 mois. 6 frappes ont visé 4 localités au nord et au centre de la plaine orientale de la Beka. L'Agence nationale d'information officielle rapporte que les raids ont été menés par des drones. Le quotidien israélien Ma'ariv affirme que des missiles mer-sol ont été tirés par des vedettes à partir de la Méditerranée. Dans le camp d'Ain el-Helwe, le plus peuplé du Liban, les raids ont visé un bâtiment de la force conjointe chargée de la sécurité des camps. Le Hamas a annoncé la mort de 2 de ses membres.
Paul, pourquoi Israël frappe avec une telle intensité et surtout pourquoi maintenant ?
Les médias libanais font un rapprochement entre la montée des menaces américaines contre l'Iran, qui coïncide avec l'entrée du porte-avions Gerald Ford en Méditerranée, et l'étalage de forces israéliens. L'État hébreu veut montrer à ses ennemis qu'il est capable de frapper par air et par mer, même les régions les plus reculées, sans l'aide de ses alliés.
Merci beaucoup, Paul Khalife, en direct de Beyrouth sur RFI.
RFI 7h08 à Tunis. La tension monte en Tunisie autour des usines chimiques de Gabès.
Oui, des usines accusées de causer de graves troubles respiratoires et de causer des cancers. Les habitants de cette localité du sud réclament le démantèlement des unités polluantes. Et 12 militants anti-pollution ont été condamnés à 1 an de prison à cause de leurs protestations. Un jugement qui tend encore un peu plus le contexte à Gabès, où les manifestations anti-pollution se succèdent. Lilia Blaise.
La Ligue tunisienne des droits de l'homme a dénoncé un précédent dangereux dans un communiqué publié hier. Islem Zreli, un activiste qui ne fait pas partie des condamnés, explique sa stupeur après l'annonce du jugement.
On a tous été très surpris de ce jugement par contumace pour tout le monde, car personne n'a reçu de convocation au tribunal. Pour rappel, ce sont des militants écologistes qui ont été condamnés suite à une plainte de l'entreprise chimique pour obstruction au travail d'un fonctionnaire et à la liberté de travail. C'est étrange que ce jugement tombe maintenant, alors que nous attendons depuis des mois une décision du président tunisien concernant cette entreprise.
Le parti d'opposition Al-Jumhouri et l'ONG Le Forum tunisien des droits économiques et sociaux ont dénoncé une criminalisation des militants écologistes, un coup dur qui ne décourage pas Islem Zreli.
Nous respectons la justice tunisienne et ses décisions, mais nous affirmons avec conviction que notre combat est juste et pacifique. Nous ne laisserons pas tomber.
Ce verdict tombe alors que la population de Gabès attend aussi une décision dans le procès intenté contre le groupe chimique tunisien pour sa responsabilité dans la crise environnementale de la ville. Un nouvel examen de l'affaire aura lieu le 26 février. Lilia Blaise, Tunis, RFI.
À Moscou, ne l'appelez plus le musée du Goulag, mais le musée de la mémoire.
Ah oui, l'institution créée au début des années 2000 et centrée sur le système concentrationnaire soviétique change de ligne. Elle cède sa place à un programme patriotique conforme aux objectifs du pouvoir, Anissa El-Jabri.
Le coup prêt pour le musée du Goulag était tombé en novembre 2024. Le seul grand musée d'État de Russie consacré aux répressions soviétiques était annoncé comme fermé temporairement pour, je cite, « infraction aux normes de sécurité incendie ». Quelques mois plus tard, le directeur était remplacé. Fin du travail d'un lieu qui racontait aux visiteurs l'histoire du vaste réseau de camps de travail forcés de l'Union soviétique ainsi que leur héritage dans la Russie moderne grâce à des objets provenant de tout le pays. Lors de la nomination de la nouvelle directrice, la ministre de la Culture a souligné cet élément. Natalia Kalachnikova a reçu un certificat de vétérane ainsi que des médailles pour, je cite, sa contribution au renforcement de la défense de la Fédération de Russie et participante à une opération militaire spéciale. La nouvelle institution qu'elle dirige va s'appeler le Musée de la mémoire. Il sera dédié à, je cite encore, « la mémoire des victimes du génocide du peuple soviétique ». Les autorités russes, depuis plusieurs mois, cherchent à faire reconnaître internationalement que les citoyens soviétiques ont été victimes de génocide pendant la Seconde Guerre mondiale, au même titre que les Juifs. Anissa El-Jabri, Moscou, RFI.
Musée et cinéma pour se quitter, Martin, avec le film « Saveur d'exil ».
Un documentaire sur la transmission familiale qui passe notamment par l'assiette, c'est le cas pour la réalisatrice Anselette Hatt, qui s'est plongée dans la marmite de sa grand-mère vietnamienne. Saveur d'exil qu'a vu pour nous Elisabeth Le Quéry.
Coupée, lavée, assaisonnée, laissée mijoter. Dans Saveur d'exil, Anselette Hatt filme sa grand-mère vietnamienne en train de cuisiner. Des gestes qui semblent anodins mais qui cachent 60 ans de silence.
J'ai toujours entendu que notre famille faisait partie d'une liste noire.
La réalisatrice cherche à comprendre quand elle découvre soudain les archives de son grand-père. Celui-ci fut un haut dignitaire du régime du Sud-Vietnam, inféodé aux États-Unis. Soudain, tout bascule. L'enquête domestique devient politique, même si on sent la gêne de la cinéaste face à ce passé encombrant, cette figure compromettante qu'elle peine à interroger vraiment. Le film tisse alors un dialogue entre deux temporalités, les images du passé et les mains qui cuisinent au présent.
Peut-être les recettes de bas étaient les souvenirs les plus fiables de son exil.
Les plats vietnamiens succulents deviennent un langage alternatif dans cette famille où l'on ne parle jamais du passé. Saveur d'exil interroge ce qui persiste quand les mots nous manquent et prouve que parfois c'est devant la chaleur des fourneaux que l'histoire se transmet le mieux.
Voilà, des fourneaux bien chauds et nous voilà en appétit pour la suite de RFI Matin avec Marion Cazeneuve.
Merci Martin Guez. On passe au sport, il est 7h13 à Paris. L'espoir avec vous, Babacar Diarra. En football, l'entraîneur a changé, mais les doutes demeurent à Marseille.
L'OM s'est incliné 2-0 à Brest en ouverture de la 23e journée de Ligue 1. Un premier revers pour le nouveau coach, Habib Bey, arrivé la veille et qui ne peut être accablé pour cette défaite. Les ambitions des Phocéens n'en demeurent pas moins menacées avec un podium potentiellement à 8 points. Si Lyon s'impose à Strasbourg demain, le défenseur international français Benjamin Pavard déplore un très mauvais match de son équipe.
Oui, c'est sûr, on est très déçu. Je pense qu'on est passé complètement à côté de notre première mi-temps, dans l'intensité, dans l'impact. On n'était pas là. En deuxième mi-temps, il y avait beaucoup de murs, on a eu beaucoup d'opportunités. Ça fait plusieurs matchs, je trouve, qu'on ne met pas assez d'intensité. Pourtant, on travaille, mais c'est bien beau de parler. Et maintenant, il va falloir travailler deux fois plus pour ne pas refaire ce genre de match. On a une grosse semaine pour préparer un match très important qui va vite arriver au Vélodrome face à Lyon. Il va falloir travailler deux fois plus. Parce que quand quand on est l'Olympique de Marseille, on peut pas se permettre de faire des matchs comme ça.
Loin de Marseille et David Bay, la course au titre se poursuit aujourd'hui en championnat de France avec le duel à distance entre les deux leaders. Lens reçoit l'AS Monaco à 16h temps universel. Son dauphin, le PSG, accueille à 20h05 la lanterne rouge, le FC Metz. Et puis notez que du côté de l'Angleterre, Manchester City peut se rapprocher d'Arsenal à 2 points s'il s'impose ce soir face à Newcastle.
En Italie, à présent, avec 11 médailles, dont 5 en or, le biathlon français aura brillé au JO d'hiver 2000 en Cortina. Et ça n'est peut-être pas encore fini.
La dernière épreuve, la Mass Start féminine, peut compléter un bilan étoffé en grande partie par Quentin Fillon-Maillet. L'athlète français le plus médaillé, tout JO confondu, a ajouté 4 médailles à son palmarès lors de cette édition. Et il a grandement contribué à un bilan qui va au-delà des espérances de Simon Fourcade, entraîneur du groupe masculin.
Une campagne extraordinaire. J'avais dit avant les Jeux que 2 médailles en relais plus 3 en individuel seraient des jeux pleinement réussis. On en a 4 aujourd'hui et je partais sur des bases très très optimistes. Donc voilà, comment ne pas dire que ces jeux sont réussis. Ça a été du bonheur tous les jours. On est récompensé sur chacune des courses hommes. Donc il n'y a pas une journée qui est achetée là-dedans et il va falloir un petit peu refaire du jus parce qu'on sent les athlètes émoussés. Et il y a encore de très belles choses à aller chercher sur la fin de saison sur le classement général, notamment avec Eric. Donc voilà, on va refaire le plein d'énergie sur la semaine à la maison la semaine prochaine et repartir au combat.
Simon Fourcade au micro de Christophe Diremzian. Et puis toujours sur les JO d'hiver, notez que la finale de hockey masculin qui conclut ces 2 semaines le dimanche en général opposera demain les États-Unis au Canada. Une rivalité historique exacerbée en ce moment par le contexte politique entre les deux pays.
En tennis, Arthur Fils va vivre un moment fort dans sa carrière cet après-midi avec la finale du tournoi ATP 500 de Doha face à Carlos Alcaraz.
L'espoir français de 20 ans va s'attaquer au numéro 1 mondial. Fils vit une semaine magnifique au Qatar pour son 3e tournoi de reprise après la blessure au dos qui l'a éloigné des cours de longs mois l'année dernière. Hier, en demi-finale, Arthur Fils s'est offert en 2-7 Jakub Mencik, le Tchèque.
Je me sens bien, sûr que c'est de mieux en mieux après tous les matchs. Je pense que j'ai déjà mieux joué au tennis, mais quand même, c'est quand même très positif après que mon 3e tournoi de reprise, donc faut continuer. Oh, ça va être un gros match, c'est sûr qu'il n'a pas perdu un match depuis le début de l'année, donc ça va être un gros match. On va voir ce que ça donne, mais très content d'arriver en finale et de pouvoir jouer contre le numéro 1 mondial.
La finale du tournoi ATP 500 de Doha, Arthur Fils, Carlos Alcaraz, ce sera à partir de 18h temps universel.
Le journal des sports signé Babacar Diarra, RFI, 6h16 en temps universel. La chronique menace sur l'information. Tous les samedis, nous vous dressons le portrait d'un journaliste qui exerce son métier sous des pressions, des menaces, pour mettre en lumière donc les défis auxquels sont confrontés les professionnels de la presse. Ce matin, on revient sur l'arrestation au Niger de Ghazali Abdoutassawa. C'était il y a un mois. Correspondant pour le service en langue Haoussa de la radio internationale allemande Deutsche Welle, il avait publié un reportage sur les conditions de vie des réfugiés nigérians au Niger. Son arrestation est dénoncée par plusieurs organisations de défense de la presse comme une atteinte à la liberté d'informer. Éclairage avec Karine Cognier.
Tout commence par un reportage diffusé le 15 janvier. 6 jours plus tard, le journaliste Ghazali Abdoutassawa est convoqué par la police judiciaire. Après son audition, le procureur l'autorise à repartir libre. Mais l'affaire ne s'arrête pas là. Le 23 janvier, il est finalement rappelé, déféré, puis incarcéré. Pour Reporters sans frontières, le motif de cette arrestation est lié à son travail de terrain. Sadibou Maron, directeur de RSF pour l'Afrique subsaharienne.
Le reportage en cause, qui a été diffusé par la Deutsche Welle 6 jours avant sa première convocation, traite des conditions de vie des migrants et réfugiés nigériens à Niamey. Les personnes interrogées racontent avoir été déguerpies de plusieurs sites dans la ville de Niamey, cela par les autorités nigériennes elles-mêmes. Elles ont trouvé refuge près d'un cimetière et elles ont été privées de logement et de nourriture.
Pour RSF, rapporter ces faits relève pourtant d'une mission fondamentale. En s'acquittant de son devoir d'informer, ce journaliste était pleinement dans son droit.
En documentant la situation de migrants nigériens en détresse à Niamey, Ghazali Abdoutassawa n'a fait qu'exercer son métier de journaliste, et cela dans le respect du droit du public à une information libre et indépendante. Et pour nous aussi, son arrestation est une atteinte grave à la liberté d'informer.
Selon l'organisation, le cas de Ghazali Abdou Tassawa n'est pas isolé. Il vient en effet s'ajouter à une liste qui s'allonge, témoignant d'une dégradation du climat pour la presse au Niger.
Une dizaine de journalistes ont été abusivement arrêtés. On a vu que Ali Soumana, directeur de l'hebdomadaire Le Courrier, a été libéré le 22 janvier dernier, mais il avait passé déjà plus de 4 mois en prison. On a vu que 5 autres journalistes demeurent toujours emprisonnés. Alors donc ça, c'est toujours problématique. Pour nous, il est important que le Niger puisse un peu redevenir le pays de liberté de la presse qu'on a connu. Ce n'est pas intéressant pour ce pays-là qui, naguère, était très bien placé dans le classement mondial de la liberté de la presse, de continuer à occuper la 83e place sur 180 pays et territoires dans le monde.
Cette arrestation laisse aujourd'hui Ghazali Abdou Tassawa face à la justice nigérienne. Il attend désormais de savoir quelles charges seront retenues contre lui et si son reportage sur la précarité des réfugiés nigérians sera le motif de sa condamnation.
Karine Cognier pour la chronique Menace sur l'information. Un autre journaliste de la Deutsche Welle a été arrêté, cette fois en Turquie. Il s'agit d'Ali Can Uludag, incarcéré jeudi pour insultes répétées au président. Hier, Berlin a exhorté Ankara à le libérer. Le Salon de l'agriculture ouvre ses portes aujourd'hui à Paris. Ce rendez-vous annuel réunit les acteurs des différentes filières agricoles, des politiques aussi venus faire campagne. Mais il y a une première cette année, les visiteurs ne croiseront aucune vache dans les allées à cause de la dermatose nodulaire. La maladie n'est que l'une des nombreuses crises que traverse la filière agricole en France en ce moment. Bonjour Thierry Pouche.
Bonjour.
Chercheur associé au laboratoire Regard de l'Université Reims-Champagne-Ardennes, chef économiste aux Chambres d'Agriculture France. Vous avez aussi coécrit l'ouvrage « Russie-Ukraine, la guerre hybride aux racines agricoles d'un nouvel ordre mondial ». C'est sorti ce mois-ci aux éditions Armand Collin. On va surtout rester sur le cas français aujourd'hui. Le Salon de l'agriculture, Thierry Pouche, ouvre donc ses portes tout à l'heure dans une ambiance bien morose. J'ai parlé de crise pour la filière agricole. Le secteur en traverse depuis des décennies. Mais aujourd'hui, elle se multiplie. Donc, dermatose, réchauffement climatique, accord avec le Mercosur. C'est un moment grave pour l'agriculture française ?
C'est un moment en tout cas assez préoccupant pour l'avenir du monde agricole, même si nous avons encore un certain nombre d'atouts qui nous permettront de rebondir assurément. Mais effectivement, la multiplication des crises sanitaires, vous avez évoqué la DNC, mais il y a aussi tout le secteur avicole avec l'influenza aviaire qui est encore touché. Il y a de nombreux foyers sur le territoire. La DNC, manifestement, il n'y a plus aucun cas dans l'Hexagone. C'est ce qu'a annoncé le ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire. Il y a eu la fièvre catarrhale ovine, la maladie hémorragique aussi pour les bovins. Donc le secteur animal est quand même énormément percuté par ces crises sanitaires. Ensuite, effectivement, vous l'avez indiqué, les accords de libre-échange risquent de malmener à nouveau ce secteur de la production animale, en particulier sur la viande bovine, ce qui a suscité effectivement des tensions dans le monde agricole, et probablement à juste titre, parce que au-delà du Mercosur, dont on ignore si va être appliqué malgré le recours auprès de la Cour de justice de l'Union européenne. Il y a maintenant l'Australie avec laquelle nous négocions et nous entendons du côté de la Commission en tout cas finaliser cet accord, et on retombe sur le problème de la viande bovine qui est quand même un secteur important en Australie.
Et quel est le plus gros danger aujourd'hui pour l'agriculture française ? C'est cet accord de libre-échange ?
Alors les accords de libre-échange constituent une menace évidemment, ça peut perturber les marchés, ça peut occasionner des pressions concurrentielle. Mais je crois que la plus grande préoccupation du monde agricole, c'est l'érosion des effectifs d'agriculteurs. Il y a une grosse difficulté sur ce plan-là. On est à peu près sur 13 000 installés par an pour 20 000 départs. Donc il y a un écart assez important. Et depuis plusieurs années maintenant, les dispositions prises par les pouvoirs publics éprouvent des difficultés à rendre le métier attractif. Mais ce métier, il sera d'autant moins attractif qu'il y a justement tous ces chocs qui s'accumulent, qui se superposent.
Et ça veut dire qu'on va manquer de bras dans les années à venir pour nourrir les Français ?
On en manque déjà, d'une certaine façon. Vous avez notamment dans l'élevage un secteur qui a payé un très lourd tribut à l'érosion des effectifs. Il y a de moins en moins d'éleveurs en viande bovine, en bovin-lait, en volaille, en porcin. Donc ça pose un problème. Ce qui explique d'ailleurs qu'il y ait un surcroît d'importation en France, puisqu'il y a une décapitalisation du cheptel et une diminution des effectifs d'éleveurs.
Alors, en 1996, la France était deuxième exportateur mondial de produits agricoles. Elle est sixième aujourd'hui. c'est moins bien, mais c'est pas si mal. C'est normal que de gros pays comme la Chine ou le Brésil le passent devant.
Alors, le fait de rester dans le top 10, en quelque sorte, des exportateurs mondiaux est plutôt une bonne nouvelle. Ça montre qu'on est quand même encore détenteur d'atouts et de performances commerciales. Toutefois, passer de la deuxième à la sixième place interpelle quand même, puisque certes, on peut le voir sous l'angle, la mondialisation a fait qu'il y a eu des nouveaux concurrents qui ont progressé, nous ont rattrapés, parfois dépassés. Mais ce qui est assez significatif, c'est que cette érosion de notre compétitivité provient essentiellement de l'intra-communautaire, c'est-à-dire de la concurrence que nous livrent nos propres partenaires européens. Donc ça, ça pose un problème. Un exemple très simple, la Pologne est le premier fournisseur de la France en viande de poulet. Donc voilà, alors qu'on était excédentaire dans cette filière auparavant.
Et l'agriculture de l'Union européenne se porte plutôt bien, avec un excédent commercial de 50 milliards d'euros. Donc pourquoi la France prend un peu le chemin inverse? Pourquoi d'autres de ses voisins, de ses partenaires la dépassent?
Alors, on retombe sur un petit peu nos problèmes de production, on a de moins en moins d'agriculteurs, la production s'accroît moins vite et de façon beaucoup moins importante que nos partenaires européens.
Et les agriculteurs parlent aussi, pour expliquer ce manque de compétitivité, des normes. Il y a trop de normes aussi en France.
Alors c'est un vrai problème, puisque ce sont des normes européennes qui se déclinent ensuite sur les États membres. Elles ne sont pas forcément appliquées de la même façon, et parfois l'État français devance même certaines décisions de la Commission européenne. Donc au bout d'un moment, ça fait partie finalement des pressions exercées sur les agriculteurs avec les crises sanitaires, le climat, etc.
Alors elles ont pourtant été un petit peu allégées, ces normes, avec la loi Duplon en 2024. Et toutes ces normes à la base qui sont adoptées visent à protéger, à préserver l'environnement. Donc moins de règles, ça voudrait dire aussi qu'on met de côté l'écologie. L'écologie et l'agriculture ne vont pas ensemble.
Je ne suis pas certain qu'il faille opposer l'agriculture et l'environnement. C'est d'ailleurs un petit peu la complexité du débat. Les agriculteurs travaillent avec le vivant et c'est précisément ce qui leur est contesté aujourd'hui. Donc comment on sort de cette équation un petit peu difficilement résolvable? Donc il y a eu des progrès. Quand vous regardez les cours, par exemple, d'utilisation des engrais et des pesticides, on voit que c'est sur une pente un petit peu descendante, tout simplement parce qu'il y a un coût aussi à utiliser ce type d'intrants, et il y a des réglementations justement environnementales qui sont assez drastiques, donc les agriculteurs sont obligés de respecter un certain nombre de critères pour pouvoir continuer à produire.
Mais des normes environnementales, ça obligerait aussi les agriculteurs à s'adapter au climat, et donc par exemple ça leur éviterait de tout perdre, je ne sais pas, par exemple en cas d'épisode caniculaire l'été.
Oui, mais ça participe aussi du respect de ces normes environnementales, de s'adapter au changement climatique, mais ça nécessite aussi qu'il y ait un effort assez conséquent en matière de recherche pour trouver, par exemple, de nouvelles variétés de produits végétaux pour mieux résister au changement climatique, par exemple, pour s'adapter à l'évolution des sols. Bon, voilà, il y a des choses qui peuvent être faites, qui sont déjà faites. Les agriculteurs connaissent très bien leur métier en général, et donc ils ont un souci de préserver leur outil de production, ce qui est assez logique, me semble-t-il.
Alors, est-ce qu'on peut aussi parler d'un secteur fracturé? Il y a des syndicats, des confédérations, des agriculteurs qui ne sont affiliés à rien de tout ça, des petites entreprises, des grosses firmes, chacun a des agendas différents, et les problèmes ne sont pas les mêmes aussi entre un éleveur porcin et un producteur de cerises. Donc, c'est difficile de parler de secteur quand, en fait, il y a tant de disparités.
Alors, on peut parler de secteur sous un plan économique.
Oui.
Ensuite, évidemment, sur le plan de la représentation des agriculteurs et des syndicats qui existent, ça c'est autre chose. On a une approche peut-être un peu plus sociologique ou du moins sciences politiques. Donc moi je parle de secteur en tant qu'économiste, ça ne me pose pas de problème. Après, effectivement, le monde agricole est quand même assez fracturé, mais d'une certaine façon, quand on regarde historiquement, l'unité syndicale a été des épisodes assez rares finalement, en tout cas sous la Ve République.
Et il nous reste une petite minute, Thierry Pouche. Et les consommateurs dans tout ça, on parle des normes pour les agriculteurs, mais est-ce qu'il faut en France, par exemple, que les consommateurs acceptent de payer plus cher?
Oui, mais depuis la guerre en Ukraine, l'inflation est passée par là. Il y a des arbitrages qui sont faits sur le logement, la santé, l'énergie. Donc on voit bien que les Français sont à la recherche de prix les plus bas possibles. possible, ce qui remet en cause toute une stratégie qui avait été développée il y a quelques années autour de la montée en gamme. Donc là, on est vraiment, c'est un choc supplémentaire pour les agriculteurs. Il faudrait sensibiliser la population française, oui, qui pourrait jouer un rôle dans l'avenir de l'agriculture.
Merci beaucoup Thierry Pouche, chercheur associé au laboratoire Regard de l'Université de Reims, Champagne-Ardennes, chef économiste aux chambres d'agriculture en France. Je cite aussi cet ouvrage que vous avez coécrit et qui sort ce mois-ci, Russie-Ukraine, la guerre hybride aux racines agricoles d'un nouvel ordre mondial. C'est aux éditions Armand Collin. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin sur RFI. Vous restez à l'écoute de la Radio du Monde. Dans 30 secondes maintenant, le retour de l'actualité africaine.
RFI à Curepipe, 93.2 FM. Retrouvez RFI sur YouTube. La Radio Mondiale est présente sur la plus grande plateforme de vidéos en ligne du monde.
Sur notre chaîne dédiée, vous pouvez écouter RFI en direct 24h sur 24, mais aussi